19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bien, bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. C'est parti, vous le savez, quotidiennement, nous sommes ensemble. Ensemble dans Les Informés pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Aujourd'hui, la tonalité de l'émission Les Informés, mes amis auditeurs, elle apprend d'une forme un peu particulière aujourd'hui, puisqu'il n'y aura ni une face-à-face, ni éditorialiste, ni invité spécial. Mais là, on va faire une petite édition, émission spéciale, avec un invité de marque, un invité également qui représente la Méditerranée. C'est un ambassadeur. Il est proche du château, hein, on peut dire ça comme ça. Et puis aussi, il sera avec nous, puisque l'émission s'articule sur plusieurs parties. Mais j'ouvrirai l'antenne. Vous le savez, moi, je ne bouge pas. 01 53 48 3000, parce que s'il est d'accord, notre ambassadeur, on va ouvrir l'antenne, vous allez pouvoir échanger avec lui sur les sujets que nous allons évoquer ce soir, qui fâchent parfois aussi, oui, absolument. Il s'appelle Karim Amelal. Il est avec Amelal, pardon. Oula, vous avez ma langue à fourcher.
Ça commence bien.
Ça commence bien, c'est ça, je donne le ton. Karim Amelal, qui est l'ambassadeur de la Méditerranée. Il est donc chargé, évidemment, on va en savoir un peu plus. Et tout à l'heure, j'ouvrirai l'antenne au 0153 48 3000. Donc c'est parti. On vous a annoncé tout à l'heure sur les réseaux sociaux. J'ai vu pas mal de commentaires aussi. Donc nous allons en parler, nous allons les mettre. Nous allons mettre, comme on dit d'ailleurs, les pieds dans le plat. C'est parti, vous le savez, les informés, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Mon cher ambassadeur, monsieur l'ambassadeur Karim Amelal, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va bien, vous ça va bien. Toujours ici.
Bon, monsieur l'ambassadeur, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est normal, avec plaisir.
Autour d'une émission spéciale que nous avons organisée, que nous avons conçue. Quand je vous ai sollicité, effectivement, tout de suite, ça a matché tout de suite, parce que vous vouliez mettre aussi les pieds dans le plat, me semble-t-il. Hein.
Oui, c'est important de s'exprimer, de faire connaître ce qu'on fait en matière de politique extérieure, de politique étrangère, et puis aussi sur un certain nombre de sujets.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on est nommé par Emmanuel Macron, le chef de l'État, puisque vous avez été nommé fraîchement, donc il y a quelques mois à peine, ambassadeur de la Méditerranée. Je dois dire que, pour les auditeurs, c'est vaste.
Oui, c'est vaste. C'est vaste parce que la Méditerranée est vaste. C'est un petit espace dans le monde.
Ça veut dire quoi, ambassadeur de la Méditerranée ?
Alors d'abord, ça veut dire ambassadeur de France. C'est pas anodin parce que quand Emmanuel Macron m'a nommé il y a plus d'un an maintenant, un peu plus d'un an, il a nommé un franco-algérien.
Ouais. C'est-à-dire,
moi, j'ai la nationalité. Exactement. De mère française, de père algérien.
Et de père
Berrichon.
Et de père algérien.
Et j'ai les deux nationalités. Donc je suis, je crois que c'est un peu la première fois qu'un ambassadeur de France et franco-algérien. Donc complètement. Entre les deux rives.
Ouais.
Et un ambassadeur de France qui s'occupe de Méditerranée, en fait, ça existait déjà, ça existe depuis quelques années. Ça veut dire qu'on s'occupe de toute la région et de tout ce qui concerne la région Méditerranée. Alors, la mer elle-même, hein, l'étendue liquide, matière d'environnement, de biodiversité, de pêche, etc. Et puis aussi les pays qui sont riverains de la Méditerranée en matière de coopération dans plein de domaines.
Et nous, on a dit donc, monsieur
l'ambassadeur. Donc, ça fait du boulot.
C'est ce que je m'apprêtais à dire.
Ça fait beaucoup de
boulot. Ça fait un sacré chantier.
Ouais, c'est un gros chantier. C'est un très gros chantier.
Vous êtes en ce moment sur quel chantier en ce moment ?
Alors aujourd'hui, on s'occupe beaucoup d'un forum qu'on va organiser en février prochain, forum des mondes méditerranéens à Marseille.
Oui.
On s'occupe de coopération en matière culturelle, en matière économique. On s'occupe d'espace régional, des relations de l'Union européenne avec les pays de ce qu'on appelle le voisinage. Donc il y a énormément de sujets. Là, on sort d'un événement important qui était la conférence sur la Libye.
La Libye.
Qui s'est déroulée samedi dernier.
Bah,
avec plaisir.
Donc vous étiez avec Emmanuel Macron.
Avec plaisir. Donc,
il était dans quel état d'esprit, le chef de l'État ?
Alors moi, j'y étais pas directement pour le coup parce que c'était un sommet de chefs d'État. Donc il y avait plein de chefs d'État et de ministres des Affaires étrangères. Mais évidemment, la Libye fait partie du périmètre et c'est un sujet qu'on suit qui est très important pour nous.
Karim Amelal, monsieur l'ambassadeur, donc chargé de la Méditerranée justement, et on filme. Hein, après, vous allez diffuser sur les réseaux sociaux. Justement, alors monsieur l'ambassadeur, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, moi je vous propose la structure suivante pour articuler notre émission spéciale, Les Informés, édition spéciale, émission spéciale. On va parler de la relation qui fâche Algérie-France, France-Algérie. Je le mets volontairement exprès dans les deux sens à chaque fois. On va parler aussi de cette relation qui est sous tension Maroc-Algérie. Nous reviendrons aussi sur cet espace méditerranéen, quel est l'enjeu géopolitique, géoméditerranéen. Nous parlerons de la conférence qui s'inscrit en ce moment, vous l'avez rappelé, concernant la Libye. On parle beaucoup de Saïf al-Islam. Hein. Le retour en grâce de Saïf al-Islam, il revient de loin, Saïf al-Islam. Mmh. Vous nous direz ce que vous en pensez, justement, parce que je vois qu'il est très, très volontairement, j'appuie le truc, je suis un peu comme ça, plébiscité. Notre ami, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai eu l'occasion effectivement de l'interviewer il y a quelques années pour Envoyé Spécial. Et oui, j'avais fait un sujet pour Envoyé Spécial il y a quelques années. Et puis surtout, nous parlerons aussi, vous savez quoi, de ce vivier. Ce vivier qui représente la France, les franco-maghrébins, cette diaspora. Qu'est-ce que vous voulez en faire justement et qu'est-ce que vous comptez faire avec elle? Ça vous va?
C'est impeccable. Alors,
super.
Je vous le dis d'entrée de jeu, sur un certain nombre de sujets, je suis ambassadeur de France et donc j'aurai une parole un peu diplomatique, que nos auditeurs me pardonnent.
Mais les auditeurs,
parce que
vous appelez.
Parfois,
hein.
Ça va être un peu tiède.
Le standard, il explose ici tous les soirs.
C'est normal.
Je vais vous prévenir, nos auditeurs, parfois, ils prennent
c'est
pas
normal,
des pincettes.
C'est normal, tant mieux. Mais moi, du coup, j'en prendrai sur
vous, si vous voulez en prendre, mais
sujet.
Nos auditeurs, je vous donne le ton. Parfois, ils ne prennent pas le ton. Voilà. J'avais ouvert l'antenne la semaine dernière, tiens, sur la relation France-Maroc. Le standard a explosé. Ils ne comprennent pas les tensions, d'ailleurs. Ils vous diront peut certainement leur position, leur avis. Alors, monsieur l'ambassadeur, d'abord, j'aimerais commencer avec ce premier sujet. Paris a estimé qu'Alger n'avait pas saisi la perche tendue, donc sur la réconciliation. D'ailleurs, plus récemment, Emmanuel Macron, le chef de l'État, a dit vouloir apaiser justement cette tension. Vous dites quoi? Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur l'ambassadeur, que cette tension est véritablement apaisée? Parce qu'on a l'impression que on se tourne le dos, chacun se tourne le dos.
Je crois que ça va mieux, je crois que ça s'arrange, et je crois que ça ne peut que s'arranger entre deux pays qui ont tant de choses en commun, une si longue histoire évidemment qu'on va pas rappeler ici, mais enfin les liens sont innombrables, ils sont familiaux d'abord, on en est tous les deux issus quand même de cette histoire, on en est le produit. Donc entre deux pays comme ça, d'abord les choses ne peuvent pas tout à fait être normales, c'est clair, c'est ce qu'on appelle la relation passionnelle qui est dictée par l'émotion, c'est normal avec une si longue histoire et autant de liens.
Oh, mais là, un pas
ça
a été franchi.
Et en même temps, c'est des pays qui ont énormément d'intérêts en commun. Et je crois que elle est toujours cette relation tiraillée entre la passion, l'émotion et puis la normalisation. Donc ça donne des hauts, des bas, ça donne des pics, ça donne
tiraillé. On l'entend bien,
ça.
Monsieur l'ambassadeur. Mais est-ce que vous considérez, comme certains acteurs politiques, qu'Emmanuel Macron, le chef de l'État, le président de la République, a commis une maladresse?
Non, je considère pas qu'il a commis une maladresse. Il a d'abord, c'est des propos qui ont été rapportés, à l'occasion d'un déjeuner qu'il a fait avec des jeunes qui n'avaient rien à voir avec la relation bilatérale. Le sujet de ce déjeuner auquel j'ai assisté, c'était la réconciliation.
Donc, devoir de mémoire.
La réconciliation des mémoires. La mémoire des Harkis, la mémoire des petits-fils d'indépendantistes, la mémoire des petits-enfants de rapatriés, etc., etc. Donc c'est vraiment un sujet franco-français. Bien sûr, il y a aussi une dimension bilatérale. Mais c'était ça, le sujet du déjeuner. Et c'était une discussion à bâton rompu. Et vous savez, je vais vous dire un truc, mais franchement, j'espère que nos auditeurs me croiront, s'ils ne me croient pas, tant pis. Le président Macron aime l'Algérie et a un profond respect pour l'Algérie. Et je crois...
Vous êtes sincère quand vous dites
ouais,
ça.
Je suis sincère parce que je le connais. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un homme président de la République
qui
envie d'avancer sur ce sujet-là. Malgré toutes les circonstances, malgré la montée de l'extrême droite, malgré les relations qui sont dans la région pas très bonnes, etc., etc., je crois que c'est le président et l'Algérie doit le savoir, les Algériens
alors
doivent le savoir.
Alors pourquoi ça peine à avancer?
C'est le président qui a le plus envie que les choses avancent.
Alors, j'entends, mais
et il y a des
ça...
actes.
Alors, il y a des actes, oui, absolument. Beaucoup attendaient d'ailleurs le 17, beaucoup d'actes, vous avez raison, mais on va en parler justement. Le dernier en date, c'est le 17 octobre 1961, d'accord ? On va pas évidemment rappeler cet événement tragique.
Tragique, évidemment.
Alors, certains ont dit que c'est un véritable grand pas du chef de l'État, lorsqu'il a franchi effectivement, d'aller sur place et d'aller observer quelques minutes de silence. Pourquoi n'a-t-il pas fait de discours ?
C'est la première fois d'abord qu'un président de la République française va sur place. Avec des familles de victimes qui étaient présentes, avec des jeunes qui étaient là. Donc c'était une cérémonie, une commémoration extrêmement émouvante et très importante parce que symboliquement c'est la première fois que le chef d'État va là-bas. Et vous savez, il y a beaucoup de forces contraires à l'occasion d'événements de ce type. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut pas que le président français aille là-bas parce que c'est pas opportun, etc., etc. Surtout dans le contexte politique que nous connaissons. Donc, il y a un geste symbolique très important. Il n'a pas fait de discours, mais il y a un communiqué. Je veux dire, les mots sont là. Et les mots sont importants. Et ce sont des mots, oui, à l'occasion du 17 octobre, comme à l'occasion d'Ali Boumendjel, à l'occasion de Maurice Audin, des figures importantes qui ont été assassinées par l'armée française.
Mais certains ont regretté, vous leur dites quoi? Certains ont regretté que, justement, il était présent, pourquoi il n'a pas accompagné sa présence d'un discours, peut-être certainement politique, qu'il reconnaisse enfin, peut-être, une reconnaissance, voilà, tout simplement.
Dans ce genre de situation, et à l'occasion de ces commémorations, et c'est normal, c'est légitime, il y en a toujours, pour des tas de raisons, et encore une fois, c'est légitime, hein, bien sûr, qui considère que c'est pas assez. S'il avait fait un discours, on aurait considéré, peut-être, certains auraient considéré que son discours n'allait pas assez loin, etc., etc. Les mots ont été posés sur cette tragédie. C'est un massacre qui a été commis, en particulier par un homme, le préfet Papon, bien connu d'ailleurs au temps de la collaboration. Et Vichy, c'est quand même le type qui a envoyé à l'extermination des enfants juifs, hein. Donc, Papon a une petite histoire avec la grande histoire. Donc, les mots ont été mis sur ce qu'il s'est passé. Je crois que c'est très important. Alors, effectivement, il aurait pu prononcer un discours. Peut-être que lui ou le prochain président le fera. Mais ce qui compte, c'est que c'est un processus, c'est une étape. Mmh. Et une étape importante parce que les mots ont été dits, alors, clairement, et parce qu'il y a été, il a été sur place pour la première fois.
Karim Amelal, monsieur l'ambassadeur, revenons sur le sujet qui... on doit s'attarder là-dessus. L'impossible, cette impossible réconciliation entre Paris et Alger. Vous dites que ça s'apaise. Alors, dites-nous comment. Il a lancé peut-être, certainement, il a tenté de joindre, me semble-t-il, le président algérien, le chef de l'État.
Ils ont un dialogue qui Emmanuel est, Macron. Ils ont un dialogue qui est régulier depuis maintenant un certain temps. Ils se parlent régulièrement et je crois que leur dialogue, de l'aveu même, hein, du chef de l'État, des deux chefs d'État d'ailleurs, est plutôt bon. Emmanuel Macron a un profond respect pour le président de la République algérienne, mais surtout pour tous les Algériens, pour l'Algérie et pour l'histoire de ce pays, pour la nation algérienne, la nation. Un mot qui a fait grand bruit, justement, parce que certains ont considéré que le président français, peut-être, ne savait pas ce qu'était la nation algérienne. Pas du tout. Le président français a un extraordinaire respect.
Et vous nous le rappelez.
Bien sûr, c'est important, il faut le dire. Sinon, il ne ferait pas ce travail. Je veux dire, sinon, il ne...
Alors, pourquoi son image est entachée, alors?
Il n'irait pas
alors, pour quelle raison, monsieur l'ambassadeur, je vous l'accorde, mais monsieur l'ambassadeur, pour quelle raison il est entaché par certaines choses? Pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à s'en détacher? Pour quelle raison aujourd'hui? Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs 01 53 48 3000 sur ce sujet précis, France-Algérie, est-ce qu'on peut parler d'une réconciliation impossible ou au contraire, comme le dit l'ambassadeur, est-ce que cette réconciliation peut se poser par des actes que vous allez peut-être nous soumettre 01 53 48 3000 partout en France?
Mais je vais vous dire, oui, parce que c'est dur de se réconcilier. C'est difficile. Quand on a connu autant d'affres, de douleurs, de guerre entre deux pays et à l'intérieur même des familles déchirées, tiraillées, c'est dur. En moi, j'ai la France et l'Algérie. Ces deux parties ne sont pas toujours d'accord et parfois le dialogue est difficile. Il est difficile entre deux pays comme la France et l'Algérie parce qu'il y a
donc
l'histoire entre ces deux pays.
Torturé.
C'est pas la torture, c'est compliqué, ça ne va pas de soi, c'est difficile. C'est pour ça que il faut amorcer un dialogue, il faut amorcer un processus. Et en même temps, c'est très bien de parler et de dire il faut se réconcilier, il faut de l'amitié, etc., etc. Mais il faut des actes. Et je crois que les actes sont là. Alors bien sûr, et vous avez raison de parler du 17 octobre, évidemment, on peut considérer que c'est pas assez, qu'il en faut plus, il en faudra toujours plus pour certains.
Oui, oui.
Mais on ne peut pas dire que rien ne s'est passé. C'est le président qui a le plus fait en faveur de cette
réconciliation. Alors, vous êtes ambassadeur, vous avez parlé de diplomatie. Où en est cette crise diplomatique, alors, entre la France, peut-être en quelques actes, mais où en est-on aujourd'hui?
Eh ben, je vais vous dire, ça va...
Parlons-en.
Ça va mieux que... Parce que il y a beaucoup de... À chaque fois que le président, faut être honnête, à chaque fois que le président français Emmanuel Macron ou ses prédécesseurs dit quelque chose au sujet de l'Algérie, ça donne lieu, ça suscite des incompréhensions, des malentendus, des quiproquos. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a pas dit ça? Il prend parti pour un tel, il prend pas parti pour les autres, etc., etc. C'est normal. C'est comme ça que les relations entre la France et l'Algérie existent et se développent depuis 1962, évidemment. Donc, et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mmh. Donc c'est compliqué. Et les paroles du président de la République française, elles ont énormément de poids et elles
Sauf
suscitent
que là,
beaucoup de commentaires.
Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur l'ambassadeur, c'est qu'on a franchi un cap supplémentaire aujourd'hui.
On
est passé d'une relation diplomatique qui était plutôt stable à quand même à des rapports extrêmement tendu. C'est le moins qu'on puisse dire, monsieur l'ambassadeur.
Ah, mais je vais, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il n'y a pas de tension et qu'on n'est pas dans une situation
et
où,
ça, et ça
où
rejaillit,
la relation est
ou non,
absolument
ça
merveilleuse.
Ça rejaillit en France.
Alors, ça rejaillit en France. Attention, il y a d'un côté la relation bilatérale, donc la relation entre la France et l'Algérie. Très bien, c'est important. Et cette relation, en ce moment, elle ne va pas très bien. Elle a connu des jours meilleurs, même si ces jours-ci, ça va un peu mieux, parce que les lignes de dialogue sont rétablies, parce que les gens se parlent, voilà, parce qu'il y a des actes, hein, donc ça va un peu mieux. Mais il y a des choses qui continuent à se passer en France. Je veux dire, les relations entre la France et l'Algérie, c'est aussi les relations entre ceux qui sont issus de cette histoire en France.
Oui.
C'est tout le travail de mémoire que vous mentionnez. Vous avez raison, 17 octobre, etc.
Oui,
etc.
Sauf que...
Et ce travail-là, il continue. Il y a une commission qui est installée, alors, la commission présidée par Benjamin Stora, avec plein de choses qui vont arriver, évidemment. Donc, il y a des actes et ça se développe, pour le coup.
Et ces actes, justement, quand oui. je parle d'entacher, il y a cette affaire de visa.
Oui.
Qui est venue entacher.
Oui.
Eh ben, on va en parler juste tout de suite
après
la pub. 0153 48 3000. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation France-Algérie? On en parle justement, j'ouvre l'antenne. 0153 48 3000, je vous attends. Vous nous appelez, le standard est ouvert 19h16. Nous marquons cette première pause. Notre invité aujourd'hui dans cette émission spéciale désinformée, l'ambassadeur chargé de la Méditerranée, il s'appelle Karim Amelal. Il est avec nous et le standard est ouvert. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec un invité aujourd'hui, émission spéciale dans les informés jusqu'à 20h. J'ouvre le standard 0153 48 3000. L'ambassadeur chargé de la Méditerranée, il s'appelle Karim Amelal, franco-algérien, il le dit lui-même, de mère française, de père algérien. Et il est le fruit donc de tout cela et on en parle donc autour de plusieurs sujets qui ont retenu notre attention. On va parler aussi de cette inquiétante montée, vous le savez, des tensions. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, les relations entre le Maroc et l'Algérie se durcissent. Qu'en pense notre ambassadeur, lui aussi qui est chargé de la Méditerranée? On parlera aussi également de cette conférence, peut-être certainement, une issue de sortie, parce que les élections autour de la Libye, eh bien c'est dans quelques jours. Et on parle beaucoup de Saïf, du retour de Saïf al-Islam, Kadhafi, le fils donc de Kadhafi. Et puis on parlera aussi notamment, si le temps nous le permet, de la diaspora des franco-maghrébins et la République. Déchirure, divorce ou pas? Je poserai la question. Le standard est ouvert, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Ambassadeur, vous êtes prêt à accueillir nos auditeurs?
À fond, bien sûr.
Alors, pas mal de Lille, on va commencer par Lille, ensuite Corbeil, ensuite on ira traverser la France. Je vous ai prévenu, hein, parfois ça va se durcir.
C'est normal.
Mohamed de Lille, bonsoir mon cher Mohamed. Mohamed de Lille.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Alors, on vous écoute mon cher Mohamed.
Alors, moi, ce qui me vient tout de suite...
Ah non, parlez bien devant votre téléphone, parce que là, c'est pas audible du tout mon cher Mohamed.
Attendez,
il faut que le son soit nickel.
D'accord. Excusez-moi.
Vraiment, sinon je peux pas. Sinon, c'est. Allez-y, je vous écoute. Parce que comme vous êtes nombreux, allez-y, vous êtes beaucoup à appeler, donc d'accord. Je vous écoute. Allez-y à l'essentiel, s'il vous plaît, mon cher Mohamed.
Voilà, moi j'avais envie de dire juste ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand on s'excuse auprès de la population harkie, on fait des excuses à des harkies, mais de l'autre côté et tout, c'est paradoxal. Je veux dire, les gens qui ont subi, eux, on cherche pas, j'allais dire, à dire quelque chose envers ces gens-là, et
oui.
De l'autre côté, on s'excuse. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre cette attitude.
Eh bien, notre diplomate, notre ambassadeur va vous répondre.
Après,
non, mais vous soulevez une vraie question, vous avez raison, parce que vous n'êtes pas le premier, Mohamed. Déjà, il y a 15 jours, plusieurs auditeurs m'ont parlé de cela. Mohamed,
oui,
le diplomate, notre diplomate va vous répondre. Monsieur
oui,
l'ambassadeur.
Oui, allez-y.
Monsieur l'ambassadeur.
Oui, alors
c'est Mohamed de Lille.
Bonjour Mohamed, bonjour monsieur, et merci de votre question, elle est importante. Vous avez raison de parler des harkis. Bon, les harkis, c'est un problème qui est aussi franco-français, c'est-à-dire que la France n'a pas fait son devoir à l'égard d'un certain nombre de personnes qui ont, au moment de la guerre d'Algérie, choisi la France. Et vous le savez, les harkis ont été, lors de leur arrivée en France, placés dans des camps, dans des conditions terribles, et ça a duré des décennies.
Attendez.
Non,
Mohamed,
attendez-moi, Mohamed, bien sûr, attendez, monsieur, je vous dis juste que les harkis sont placés historiquement.
Il a besoin, semble-t-il, Mohamed, d'une réponse.
Dans une situation, bien sûr, c'est normal.
Il a fait le parallèle entre les deux. D'un côté.
C'est logique.
Il y a des actes, et de l'autre, non. C'est, en gros, c'est ce que pose comme question Mohamed.
Et voilà, la question, elle est là, elle est simple.
Alors, elle est très simple. Merci Mohamed. Monsieur l'ambassadeur, monsieur Karzamel.
Vous avez raison, mais je voulais juste rappeler que les harkis étaient placés dans une situation très particulière. D'autre part, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'actes qui ont été faits par rapport aux petits-enfants d'indépendantistes et à ceux qui, en France, se sont battus du côté de l'Algérie. Par exemple, les petits-enfants de ceux qui sont battus aux côtés du FLN. Par exemple, il y a deux figures qui sont très importantes, qui ont donné lieu à des actes. Ali Boumendjel, qui était un combattant du FLN, un avocat, un grand avocat algérien, bien sûr, qui s'est battu aux côtés pour l'indépendance de l'Algérie. Il a été enlevé, il a été assassiné. Personne n'en a jamais parlé. Le président de la République Emmanuel Macron,
effectivement,
a dit Ali Boumendjel a été.
J'ai vu passer.
A été enlevé et a été assassiné par la France. Et il a reconnu cet acte-là au nom de la République française. Alors, la même chose pour Maurice Audin et la même chose pour d'autres personnes.
Monsieur,
donc il y a tout ce travail-là qui est engagé. Et vous avez raison, monsieur Mohamed, il faut aller
monsieur
encore
l'ambassadeur,
plus loin.
Soyez, je vous demanderai aussi, pardonnez-moi aussi, hein, conseiller précis parce que on est inondé d'appels. Je vous avais prévenu. Mohamed, merci de Lille. On va aller à Corbeil, Nasserdine, et ensuite après, il y a Myriam de Paris. 01 53 48 3000. Nasserdine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute, mon cher Nasserdine.
Oui, je pense qu'il faudrait, pour apaiser les tensions, si je puis dire, mais je pense qu'il faudrait en fait développer le côté culturel des échanges entre la France et l'Algérie pour rapprocher les relations.
Vous avez raison.
Par le biais du sport et multiplier les jumelages. Enfin, moi, c'est ce qu'on essaye de faire, nous,
à Corbeil-Essonne.
Et après les polémiques, il y en aura toujours. Hein. De toute façon, la France et l'Algérie, c'est qui a divorcé, mais ils n'ont pas d'autre choix que de s'entendre pour leurs enfants. Donc, nous, on est partagés entre la France et l'Algérie. Donc, après, qu'on le veuille ou non, après, il y a des choses par rapport aux harkis, etc. Ça fera toujours des mécontents.
Comme le dit l'ambassadeur, il faut dépasser, effectivement.
Il faut avancer. Il faut avancer.
Nasserdine.
On n'a pas d'autre choix.
Question. Non, vous avez soulevé quelque chose d'extrêmement important, la culture. Et l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur Karim Amelal, va vous répondre. Merci pour votre appel, Nasserdine.
Je vous en prie.
Et après,
merci, monsieur Nasserdine. C'est pas une question, c'est une intervention qui est extrêmement pertinente.
Une proposition.
Et il faut apaiser, il faut dépasser les tensions. Il y en a toujours qui seront mécontents, qui trouveront que c'est pas assez, que c'est trop, etc., etc. D'un côté comme de l'autre. Hein. Il y en a aussi beaucoup qui continueront à instrumentaliser les mémoires. D'un côté comme de l'autre, côté algérien et côté français. Mais il faut essayer d'aller au-delà et d'avancer, c'est le mot qui a été prononcé. Comment est-ce qu'on avance ? Eh ben, on avance en bâtissant des ponts. Et il n'y a pas mieux que nous pour en bâtir des ponts. Monsieur Nasserdine, monsieur Mohamed, juste avant, grâce à la culture, grâce au sport, grâce au jumelage, grâce à l'économie, à l'entrepreneuriat.
Vous en parlez en permanence avec le président de la République, Emmanuel Macron ?
Mais il a cette conviction.
Non, mais vous échangez régulièrement sur ces sujets avec
absolument,
lui ?
Absolument, tout absolument, absolument. Oui. Et il a cette conviction.
Et vous écoute ?
Comme il l'a fait.
Et vous écoute ?
Je pense, puisque la preuve, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites, le travail de mémoire et la volonté surtout d'aller en avant. Qu'il y ait des difficultés, des polémiques, des controverses, bien sûr, c'est normal et entre la France et l'Algérie, ce sera toujours le cas. Mais regardez ce qui est fait, ça nous renvoie à un autre sujet dont on parlera peut-être, j'espère, la question des diasporas. Regardez ce qui est fait avec un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Il faut miser sur l'entrepreneuriat, il faut miser sur la jeunesse, il faut miser sur la culture, sur le sport, pour dépasser ces passions-là, pour dépasser tout ce qui nous sépare. Il y a plein de choses qui nous séparent. Mais si on continue en permanence à regarder ce qui nous sépare et à dire, oh là là, mon Dieu, comment on fait, etc., c'est grave, c'est malheureux, je suis malheureux, etc., etc., on n'avancera jamais. Nous tous, nous sommes en France, nous sommes fiers de ce pays. Nous avons, et c'est mon cas, parfois deux nationalités. Nous avons des origines diverses. Nous sommes reconnus en tant que tels, en tant que franco quelque chose, franco-algérien, franco-marocain, etc., etc. C'est à nous de nous emparer de ce destin-là et de bâtir des ponts entre nos pays d'origine, celui de nos parents ou nos grands-parents, et le pays dans lequel nous vivons. C'est à nous de faire ce travail.
01 53 48 3000, monsieur l'ambassadeur, nous poursuivons, donc le standard est ouvert, et ensuite on va devoir avancer. On va arrêter les appels là, monsieur le réalisateur, parce que il faut que j'avance aussi dans les sujets. Myriam de Paris. Bonsoir, Myriam. Myriam, bonsoir.
Oui. Oui,
bonsoir, bonsoir, je vous écoute, bienvenue.
Merci. Moi, si ma soeur, elle voulait vous parler, après elle m'a laissé le...
Ben, je vous écoute, allez-y, posez votre question.
Alors, c'est par rapport à ce qui s'est passé,
oui.
L'attaque sur les trois Algériens,
oui.
Sur les trois, voilà.
Oui.
Qui personne ne dit rien, personne ne conteste.
Là, vous parlez de
dans le monde entier, dans les pays du Maghreb, rien du tout. Le silence.
C'était mon second sujet. C'était mon second thème. C'est une belle transition.
Pardon ?
Allez-y, je vous écoute, Myriam.
Personne n'est sorti dire que c'était très grave. sur le plan maghrébin, sur le plan national, international. Et en plus de ça, ce qui est grave.
Bon.
Dans les réseaux sociaux, les cylindres de vol
bon.
Algérie, ils veulent la montrer comme le pays qui cherche le problème, et le Maroc, c'est lui qui est derrière tout ça.
Oui, j'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris, Myriam. Myriam, on ne peut pas s'étaler, Myriam, pardonnez-moi. On a compris la teneur de votre question, on a compris aussi la teneur des tensions que vous soulevez. J'ai bien saisi. Là, vous faites allusion aux tensions qui ne cessent de croître entre les deux pays frères, ennemis, on peut les dire entre les deux. Et monsieur l'ambassadeur, vous me permettez une belle transition, Myriam. On va lui poser la question. Alors, qu'est-ce que vous répondez, monsieur l'ambassadeur, entre ces tensions qui ne cessent de se durcir entre, monsieur l'ambassadeur, le Maroc et l'Algérie? J'ai ouvert l'antenne il y a 15 jours, ici, il y a une semaine. Tous m'ont dit, ici, sur l'antenne, ne pas comprendre ces tensions. Il y a aujourd'hui je ne vais pas vous l'apprendre, monsieur l'ambassadeur, mais aujourd'hui, la mixité entre Algérie et Maroc, il y a des mariages, je vous en parle, à l'appel en France.
Bien
d'ailleurs,
sûr.
Ils en ont parlé sur notre antenne.
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on répond?
Bien sûr, ce sont des peuples, et on peut le dire aussi de la Tunisie, des Tunisiens et de ceux qui sont d'origine tunisienne. Ce sont des peuples frères.
Oui. Mais pour le moment, la tension, c'est entre le Maroc et l'Algérie. C'est pas l'Algérie, Tunisie.
Moi, je vais vous le dire franchement. Ma parole, évidemment, est prudente parce que c'est un sujet diplomatique et que vous savez, on est suffisamment accusé de faire de l'ingérence, très souvent à tort, dans les relations entre d'autres pays et en Algérie, au Maroc ou ailleurs. Donc, n'attendez pas moi que je prenne position. J'ai une position qui est aujourd'hui officielle. Ce que je peux vous dire personnellement, en tant que Karim et Karim Amelal, c'est que ça me rend malheureux, et comme beaucoup d'auditeurs, parce que l'Algérie et le Maroc sont deux grands pays, deux partenaires essentiels de la France, et parce que au Maghreb, en Afrique du Nord, en Méditerranée, qui est ma zone ou la zone dont je m'occupe, et entre l'Afrique et l'Europe, ces pays-là jouent un rôle considérable. Donc évidemment, voir des tensions s'exacerber, s'accroître comme en ce moment...
Qu'est-ce que vous souhaitez, monsieur l'ambassadeur?
C'est
triste. Qu'est-ce que vous attendez?
Bah, nous, évidemment, nous souhaitons que la tension se résorbe, que la tension diminue, que c'est ce qu'on appelle
la désescalade. Vous parlez à Rabat? Vous parlez à Alger? Vous parlez au palais?
On parle évidemment à tout le monde. On a des relations qui sont très importantes avec tous ces pays. La relation entre la France et le Maroc est extrêmement importante. La relation entre la France et l'Algérie est certes passionnelle, comme on l'a dit, mais elle est extrêmement importante. Ce sont des relations qui sont très denses et attention, qui dépassent le niveau politique, parce que vous l'avez dit, Adil Farkan, il y a énormément de franco-algériens, de franco-marocains, de franco-tunisiens. Donc ce qui se passe là-bas, évidemment, a des conséquences ici. Et on en parle, et tout le monde en parle, et ça nous rend malheureux, ça nous rend triste. Donc nous, on essaye à notre place, bien sûr, à notre place.
Y a-t-il une issue ?
Je pense qu'il y a une issue. Parce
une sortie
que,
de crise ?
Moi, je pense qu'il y a une issue parce que c'est un peu le rêve du Maghreb, de l'intégration régionale, du Maghreb uni, de l'UMA, des choses dont on parle plus vraiment. Mais je crois que sur le plan économique, par exemple, ces pays-là ont intérêt à être beaucoup plus intégrés, c'est-à-dire à travailler ensemble. Je crois que c'est une évidence. sur le plan économique, sur le plan géopolitique. Et ce qui se passe maintenant, attention, rappelons que
je
ça fait longtemps que ça dure.
Sujet, je vous préviens.
Ça fait longtemps que ça dure. C'est pas quelque chose de nouveau, les relations entre le Maroc et l'Algérie.
Vous devez
sont
jouer
difficiles.
Un rôle. Vous répondez quoi à ça?
Nous, on
Karim, vous devez jouer un rôle. Je vous cite parmi les messages que je reçois. Karim Amelal, vous devez jouer un rôle. Vous répondez
c'est,
quoi
c'est gentil, j'essaye de jouer un rôle, un petit rôle.
Je peux pas tous les citer,
et de façon
je reçois
très,
beaucoup de
très,
messages.
Enfin, à ma place, à la place qui est la nôtre. Mais attention, il faut évidemment rappeler à tout le monde que nous, je dis nous Français, nous, la France, de façon collective, on n'a pas vocation à nous ingérer dans les affaires des autres et à nous ingérer dans la relation entre deux pays considérables, très importants, souverains, que sont l'Algérie et le Maroc.
01 53 48 3000, Abdelhamid du 91. Bonjour Abdelhamid.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute. Soyez concis et clair, s'il vous plaît.
Je voulais attirer votre attention sur ce qui s'est passé en 2019, donc oui. Le Hirak, tout ça.
Oui.
Donc les gens, ils sont sortis, oui. Il y a eu des soulèvements, il y a eu des changements. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que les gens qui ont
c'est
fait
un jeune auditeur qui parle
retrouvent.
Là, je le sens.
Oui. Oui, donc oui. Des gens qui sont en prison. Il y a des journalistes encore qui sont en prison. Il y a le poète du Hirak qui est en prison. Donc, il faudrait que la France arrête de soutenir les dictateurs algériens, tous les anciens ministres, tous les anciens dirigeants.
Question fâcheuse à notre diplomate.
Ils ont des biens en France. Ils ont des biens en France. Ils ont des comptes blindés en France. L'argent des Algériens est dans les comptes français et suisses. Donc, ça, c'est du.
Ah, c'est une question claire, monsieur l'ambassadeur.
Et il faudrait arrêter, il faut laisser le peuple choisir ses dirigeants.
Alors,
vous
avez mis les pieds dans le plat, monsieur Abdelhamid. Merci, oui. Non mais extrêmement pertinent. Vous répondez quoi, monsieur l'ambassadeur? Attention.
La France et le président de la République française discutent avec ceux qui sont autour de la table, avec ceux qui sont en face, avec des autorités qui ont été élues. Et je crois que c'est le cas, même si on peut évidemment critiquer cette situation, mais c'est le cas avec l'Algérie. Et il est tout à fait normal que le président
français discute
avec le
président algérien. Mais la question d'Abdelhamid, c'est de dire la France soutient les dictateurs.
Mais
elle le soutient.
Mais c'est un très très vieux débat. C'est un très vieux débat et chacun peut avoir son appréciation personnelle et on peut l'avoir au regard d'un certain nombre d'autres pays. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça de la relation entre la France et l'Algérie parce que ce sont deux pays qui sont des pays amis malgré les difficultés qu'on évoque. Ce sont des pays qui ont des relations extrêmement importantes. Ce sont des peuples amis. Et je crois que la France doit rester à sa place et avoir un dialogue respectueux avec chacun de ces pays et bien entendu, peut-être même surtout d'ailleurs, avec l'Algérie et avec les dirigeants algériens. Alors évidemment que...
Je ne suis pas sûr qu'Abdelhamid l'entende de cette...
Eh bien, et c'est légitime.
Ouais.
Et c'est parfaitement légitime. Chacun peut avoir sa position, son opinion. Elles doivent exister, elles doivent s'exprimer. Elles doivent s'exprimer peut-être dans les médias ou ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que pour avancer... Pour faire ce travail, notamment de mémoire, mais pour avancer sur le plan économique, il faut évidemment que nos dirigeants puissent discuter avec les dirigeants d'autres pays et les dirigeants algériens comme les autres.
Je suis contraint d'avancer, donc je vais arrêter le standard parce que je évidemment, même si beaucoup d'appels, mais il faut qu'on avance. On va marquer la deuxième pause pub. On se retrouve dans une poignée de minutes pour parler de cette conférence d'année en année d'ailleurs, hein, concernant la Libye. Et on parle d'un retour, celui de Saïf al-Islam, Kadhafi. Peut-il gagner? Peut-il l'emporter cette élection? Allez, dans quelques jours, peut-être qu'on aura certainement le point de vue de celui de Karim Amelal, l'ambassadeur qui est concerné par ce sujet. On parlera de l'enjeu géopolitique de la Méditerranée, mais également ce vivier des franco-maghrébins et notre République très chère. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
À ligne droite, dernière ligne droite, 19h42, avec notre invité aujourd'hui, concernant donc cette émission spéciale Les Informés, 20 minutes ensemble. Il nous reste quand même quelques sujets, on va tâcher de les aborder, les franco-maghrébins et la République. Nous parlerons aussi de cette crise, et puis surtout d'une autre crise, celle de la Libye, et de la conférence donc incarnée par le chef de l'État Emmanuel Macron, mais également aussi la Méditerranée, son enjeu, et surtout les chantiers qui attendent notre ambassadeur. Alors justement, la conférence sur la Libye, une solution est-elle possible avec les élections qui arrivent? Et surtout, alors, Saïf al-Islam Kadhafi qui arrive en grande pompe.
Alors sur la Libye,
vous l'avez négligé pendant très longtemps.
Alors sur la prenons les choses dans l'ordre. Sur la Libye, c'est bien que la conférence qui s'est déroulée samedi dernier ait eu lieu avec l'Allemagne, avec les États-Unis, la communauté internationale. C'est pas au chevet, mais c'est soutenant le processus politique en Libye. Et en Libye aujourd'hui, on voit la lumière au bout du tunnel, et c'est très positif, c'est très positif pour nous, pour la Méditerranée, pour l'Afrique du Nord, pour les voisins de la Libye. On parlait de l'Algérie et du Maroc, de la Tunisie. Enfin bref, c'est une bonne nouvelle.
Dans quel sens, pardon, d'insuffler une nouvelle.
Parce qu'il y a un processus de dialogue politique, de réconciliation politique, qui est en cours, qui est en train de porter ses fruits. Il y a deux sujets sur la Libye et qui ont été au cœur des discussions de la conférence de samedi dernier. Il y a la question des élections, et nous soutenons évidemment, comme la communauté internationale dans son ensemble.
Vous l'encouragez.
Oui, on l'encourage et voilà. On souhaite que des élections présidentielles et législatives aient lieu. La date du 24 décembre, effectivement, a été posée. Et ça, c'est très positif, hein. Et d'autre part, il y a la question, vous le savez, de ce qu'on appelle les forces étrangères, avec plein de subtilités autour de ça, mais passons. Voilà, exactement, qui sont là, et pas que, hein, parce qu'il y en a aussi des pays d'Afrique subsaharienne.
Ils veulent prendre leur part de gâteau. Voilà,
donc, il y a des forces étrangères qui sont en Libye et qui parasitent, obstruent, alors avec des nuances, hein, bien sûr, toutes ne sont pas logées à la même enseigne, à mettre dans le même panier, mais.
Mais elle a que duré cette crise politique. Libyenne, mon donc, cher nous, ambassadeur.
Notre souhait, c'est que.
Alors,
notre
le souhait, c'est quoi? Parlons.
La communauté internationale, oui, hein, oui. C'est que les Libyens choisissent leur destin.
Alors,
et pour cela, il faut des élections. Vous me parlez de Saïf el-Islam.
Et puis le général Haftar.
Voilà, qui sont des protagonistes et qui sont dans le jeu libyen, dans le jeu politique depuis des années maintenant, et qui ont évidemment, comme d'autres bien sûr, qui ont surgi ou peuvent encore surgir,
sauf
qui ont voix au chapitre, Saïf el-Islam évidemment.
Saïf el-Islam, là, il est extrêmement, extrêmement plébiscité. On ne parle que de lui en ce moment.
Alors, je vais
est-ce
pas,
qu'il est soutenu par,
n'attendez pas
est-ce
moi,
qu'il est soutenu par la France.
N'attendez pas de moi que je prenne position en faveur de l'un ou l'autre de ces candidats. Ça n'a pas de sens.
Que dit Emmanuel Macron?
Emmanuel Macron et la communauté internationale disent que le processus politique qui est en cours, avec des élections à venir, et il faut qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions, ça c'est très important, doivent permettre aux Libyens de choisir librement et de façon cohérente.
Alors pourquoi l'avoir négligé, Saïf el-Islam, Kadhafi?
Je sais pas si
pendant très longtemps.
Je sais pas si on.
Ça a foutu un bazar pas possible.
Je sais pas si on. Vous savez, enfin, attention.
Pardonnez-moi la trivialité, mais je vous dis franchement.
Attention. On va pas. Enfin, c'est aux Libyens et comme à tous les peuples du monde de choisir leur leader.
Sauf que Saïf el-Islam Kadhafi a tenté à maintes reprises de parler à Emmanuel Macron, le chef de l'État.
Certains pays.
Pourquoi il n'a pas tendu l'oreille, Emmanuel Macron, et vous-même, les diplomates, monsieur l'ambassadeur?
Je crois que, effectivement, le dialogue existe avec ses protagonistes, avec finalement tous les protagonistes. Le président Macron est effectivement très attentif à ce qu'il se passe en Libye depuis des années. Vous savez qu'il s'est beaucoup engagé sur ce sujet-là, comme sur d'autres. On pourrait parler aussi du Liban, qui est dans une situation absolument calamiteuse, et un pays qui est cher à notre cœur. En France, pour lequel le président de la République s'est beaucoup, beaucoup engagé. La Libye, c'est la même chose. Je crois qu'il est très soucieux de ce qu'il se passe dans ces pays, mais sans, évidemment, prendre position en faveur de tel ou tel protagoniste, candidat,
monsieur l'ambassadeur,
leader.
Vous reconnaissez Saïf el-Islam Kadhafi?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que vous le reconnaissez dans le cadre de ce processus des élections?
Nous observons effectivement qu'il a pris la parole, qu'il a voix au chapitre et qu'il est possible qu'il joue un rôle dans les semaines, dans les mois à venir, dans le cadre du processus politique qui est en cours. Et encore une fois, c'est le processus politique, la question des élections, la question de leur mise en œuvre, la question de leur bon déroulement que nous souhaitons et que nous accompagnons autant que nous le pouvons, sans évidemment nous mettre à la place des Libyens qui sont les seuls en Libye comme
vous allez vous rendre vous-même, monsieur l'ambassadeur, sur place en Libye,
à se prononcer.
Vous allez vous rendre vous-même en Libye?
Oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup. Vous savez, c'est des conditions qui sont encore...
C'est votre secteur.
C'est évidemment le secteur. La Libye est un pays méditerranéen, cela va de soi, riverain de la Méditerranée. J'aimerais...
Le 24 décembre, vous y serez?
Non, je pense pas, parce que c'est non. Pas... Voilà, je suis pas du tout partie prenante dans ces discussions, dans ce processus. Et puis, en plus, je n'ai honnêtement rien à faire dans le cadre d'élections qui se déroulent en Libye, moi ou qui que ce soit d'autre.
L'islam est élu, vous discuterez avec lui.
On verra. Enfin, je veux dire, on verra à ce moment-là. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, si j'ose dire. Pardonnez-moi pour cette expression triviale, mais ce qui compte vraiment, c'est que un processus politique sérieux, cohérent, soit mis en œuvre de sorte que les Libyens et eux seuls puissent choisir leurs dirigeants dans les semaines et mois à venir. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous souhaitons aux Libyens.
Eh bien, nous allons suivre ces élections avec beaucoup d'attention. 19h48, nous approchons évidemment au terme de cette émission. La diaspora en France, vous savez, elle représente énormément. Les franco-maghrébins, on parle de 10-15 millions. Vous dites quoi?
Bon, vous savez qu'c'est très difficile de parler de chiffres avec...
Entre les Tunisiens, les Algériens, les Marocains. On parle de 10-13 millions en France.
Peut-être même plus que ça. Mais parce qu'il y a les descendants. On en est à la troisième, peut-être quatrième génération. Regardez l'Algérie. C'est très intéressant l'Algérie sur ce plan-là, sur la question de la diaspora. Parce que la diaspora, c'est très inclusif. La diaspora, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui sont issus de cette histoire. On en parlait tout à l'heure, mais les descendants de Harki, par exemple, les descendants de Pieds Noirs, les descendants de Juifs d'Algérie, et des gens qui n'ont pas
la nation.
C'est aussi la diaspora, d'une certaine manière.
Raison.
Donc, c'est la diaspora, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Et ça rassemble beaucoup de gens qui ont un lien, c'est ça qui est important, qui ont un lien avec ces pays.
Question, monsieur l'ambassadeur, que beaucoup se posent. Est-ce qu'elle compte aujourd'hui, cette diaspora franco-maghrébine? Est-ce qu'elle pèse? Est-ce qu'elle crée un rapport de force?
Alors, rapport de force, ça, c'est autre chose.
Économiquement, socialement...
Est-ce qu'elle compte démographiquement? Vous le dites vous-même. Ce sont des millions de personnes et je ne vais pas avancer de chiffres, parce que finalement, on n'en sait rien. C'est peut-être aux démographes de le dire s'ils le peuvent. Mais c'est plusieurs millions de personnes. Mmh. Elle compte économiquement. Elle compte évidemment socialement.
Mais c'est la plus grande communauté?
C'est très important. Mais surtout, elle compte politiquement. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est quelque chose de nouveau. Et là encore, pardonnez-moi, et nos auditeurs vont dire, ah oui, vraiment, Macron, etc. Mais c'est pas que c'est mon rôle. Mais je rappelle juste un certain nombre de faits. Pour la première fois, et de façon aussi ostensible et répétée, le président de la République française, notre président, assigne à la diaspora un rôle éminent. Je veux dire, le président Macron a dit à plusieurs reprises, c'est la chance de la France. La France est, l'histoire de la France est nourrie de ces apports-là, de l'immigration. Il faut reconnaître ça. Et je crois que la diaspora, dans ses multiples composantes, a aussi un rôle à jouer pour contribuer justement à bâtir des ponts avec les pays d'origine.
On continuera d'en parler, mais on arrive au terme de cette émission. Vraiment, merci.
Tant pis, c'était un plaisir.
Non, mais vous reviendrez, monsieur l'ambassadeur.
Avec grand plaisir, bien sûr.
Écoutez, partagez. Merci infiniment, Karim Amelal. Vous êtes l'ambassadeur chargé de la Méditerranée. C'était costaud. On n'a pas pu aborder les autres sujets. Il nous restait encore la Méditerranée, mais on en reparlera à un autre moment. Nous rouvrirons aussi l'antenne, parce que vous avez été très nombreux à vouloir interpeller notre ambassadeur. Merci à vous, les auditeurs, d'être chaque soir aussi nombreux. Écoutez, on se retrouve. Où est Bilal? Tiens, je vais l'annoncer, Bilal. Bilal Nedman. Il n'est pas là, le Bilal Nedman. Bilal Nedman, je l'attends, il va courir. Viens donc annoncer ton programme. Merci à vous tous, merci à la réalisation, à Yanis. Bilal, prenez le micro, Bilal. Quel est le programme qui nous attend,
Bilal? Le programme, on va parler de l'équipe de France encore une fois, ce soir, avec les hommes de Didier Deschamps, sans oublier la Squadra Azzurra, qui doit passer par les barrages pour se qualifier au Mondial 2022 à Lille, et aussi le match terminé de l'Algérie.
Oui. Combien aura
2-2 face au Burkina Faso.
Bon, ouais. Match nul.
On aura Philippe Doucet aussi, qui nous parlera data, tu sais, tout le digital et les chiffres.
Eh bien, c'est le menu.
Bravo les Verts.
Ouais, c'est ça. Le menu qui vous attend, c'est de 20h à
21h.
Absolument, 20h-21h. Allez, je suis grave à la bourre. Merci à vous tous, merci à la réalisation, à Yanis. À demain avec autant de plaisir. Et vous le savez, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.